Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Club de la Presse. Nous sommes au jeudi 27 juin 2024. Il sont 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui jeudi et c'est le quatrième numéro pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière, à Nero, Radio La Paix, à Takpame, Sky FM, à Badou, Central FM, à Sokodé, Radio Daoul, à Bassa, Sama FM, à Niamtougou et puis Radio Koktoua. Vous avez également ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités bien sûr. Confrères journalistes, Ambroise Pondo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour Michel et autres. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio-Canal FM. Salut tous ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, au Danemark et tout. Je voudrais juste attirer l'attention de nos amis usagers de la route d'être extrêmement prudents et interpeller le ministère de la Sécurité de trouver un chronogramme pour le passage des gros porteurs sur la voie. Parce qu'il y a eu un accident la dernière fois, un accident bizarre. Et
comment ça, un accident bizarre?
Oui, bizarre parce que le gros porteur a klaxonné. Le klaxon, c'est le klaxon qui a tué la dame. Une dame qui est devant elle, une belle dame qui est devant elle avec la moto, la petite moto Raoujoula. Et le klaxon a fait paniquer la dame. La dame a dû tomber et le véhicule a marché dessus. C'est à Onyomé, sur la route de Ségué. Tout le monde a vu. Et le Titan a occupé la voie pendant pratiquement 24 heures avant d'être enlevé. C'est le lieu de sensibiliser, d'interpeller le ministère de la Sécurité la police de jouer son rôle. Parce que il y a de ces klaxonner, c'est bien, c'est pour avertir. Mais il y en a, la plupart exagèrent dans le klaxon. C'est pas comme en Europe ou au Burkina, on vous prend, on vous amende. La dernière fois à Kato, c'est le klaxon qui a fait tomber un maçon du troisième niveau de l'étage. Il est mort sur le coup. Les gros porteurs ont un débit de décibels de klaxon très élevé.
Tout à fait.
Au point que même à 100 mètres, vous allez suivre. Si vous êtes cardiaque, vous n'allez pas survivre. C'est ce qui a fait tuer la dame. Tout le monde, bon, je dis belle dame, c'est péjoratif, mais tout le monde a reconnu que c'est une dame qui allait tranquillement. Et je ne sais pas pourquoi lui, il veut tout faire pour aller là où il est, alors qu'il y a une personne devant. Et il a klaxonné, la madame a paniqué, tombé, il a marché dessus.
Mais il est important de faire comprendre quand même que on ne klaxonne pas partout. Et il y a même d'ailleurs des lieux, des endroits où
il faut klaxonner. Il y a un degré de klaxon.
Et justement, il y a un degré aussi de klaxon.
Et le klaxon même tue le sexe de celui qui est le conducteur et ceux qui sont aux alentours dans ce véhicule. Et moi, je dis, j'interpelle le ministère de la Sécurité de ne pas autoriser n'importe quelle personne, des jeunes de 18 à 22 ans de conduire, même à 25 ans, de conduire ces gens de véhicule. C'est pas que ceux qui sont plus âgés sont disculpés. Mais il doit y avoir quand même une réglementation stricte.
Mais pour souvent, ceux-là qui doivent conduire ces véhicules-là. Pour ces véhicules, justement, quand on voit des gens âgés qui conduisent alors ces véhicules, on comprend qu'il y a souvent un discernement et aussi une sagesse par laquelle, même d'ailleurs, ou par lesquelles, alors ils conduisent souvent.
Même si on reconnaît que ce n'est pas tout.
Justement, même si on reconnaît.
Et il faut que la loi sévisse en ce sens-là. C'est pourquoi il y a un décret du ministère des Transports et de la Sécurité routière. Ce décret-là, qui aujourd'hui amène le ministère à mettre en œuvre. Il faut qu'il mette en œuvre ce décret. Parce que les accidents, mon frère, surtout les heures de circulation des camions de transport de sable, à 6 heures où les enfants quittent pour aller à l'école, il faut au moins qu'on donne 5 ans de prison à ceux-là qui seront reconnus coupables d'un accident aggravé, mais un accident délibéré. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Surtout sur la voie de Ségué qui est très étroite là. Heureusement ou malheureusement que ce n'est pas seulement sur cette voie où il y a les accidents. Le grand contournement, les gens en parlent tous les jours. Les gens en parlent tous les jours. Et les accidents sont légion. Et les motocyclistes et les taximens sont les premiers pourvoyeurs d'accidents. Si vous permettez le terme. Parce que pour le taximan, lui, on peut rien lui reprocher, mais il court à vive à lui, même s'il voit quelqu'un devant, lui font seulement pour aller à Tigamé revenir. Maintenant, pour les motos, tout à l'heure, même moi, je venais, et ils faufilent comme ils veulent, quoi. Ils faufilent devant les gens.
Rare, ils n'ont pas de place fixe alors.
Ils n'ont pas de place fixe alors que leur place fixe, c'est la droite. La priorité à droite. Mais quand ils faufilent devant les véhicules, quel que le véhicule, la moto n'est pas comme un véhicule ou une voiture. Le volant du véhicule ne balance pas comme la moto. Quand le véhicule, tu peux même conduire sans tenir le volant, ça peut aller. Mais c'est pas comme la moto. Mais ils se permettent de ne pas. Le ministre qui l'avait dit une fois, qu'ils ne sont pas dans leur axe. Ils faufilent dans les véhicules et ils créent énormément d'accidents. Pour les taximens, c'est quand ils s'arrêtent et des fois ils ouvrent leurs portières. Et ils foncent, souvent ils sont à vive allure. Donc, sincèrement, que le ministère qui fait déjà un travail. Dans ce sens, mais que le ministère des Transports mette en œuvre le décret là.
C'est très important. Merci beaucoup.
Et parquer certains de ces usagers là dans les voies périphériques, pas sur la chaussée.
Merci beaucoup, Ambroise, pour cette interpellation. Michel, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Canal FM.
Vous avez écouté Ambroise avec intérêt. Et j'ai vu quand Ambroise présentait même d'ailleurs les faits. Par rapport à cet accident, j'ai vu votre visage et votre compassion également. J'ai lu cette compassion alors dans votre visage, ce qui vous dit tout simplement que la route continue alors de tuer.
Oui, c'est un être humain de moins, ce qui n'est pas normal. Et dans quelles conditions? Vous voyez, quand Ambroise parle de klaxon, je pense que c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que, franchement, les klaxons, nous sommes ici en Afrique, si on était en Europe, on ne klaxonne que dans les zones rurales. On ne klaxonne qu'aux animaux pour que les animaux cèdent la voie, le passage. Mais quand vous voyez ce qui se passe, les taximans, nos frères, comme il y a des dames aussi, nos frères et sœurs taximans, ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Les klaxons. Je disais un jour ici que les chauffeurs au Togo, surtout les taximans, ils ignorent même le passage piéton. Gare à vous, vous voulez utiliser le passage piéton et ils peuvent venir vous tuer. Et dans leur codi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Alors que vous allez ailleurs, lorsque vous mettez le premier pas au niveau du passage piéton, tout ce qu'il y a sur la route comme motocyclette, autocyclette, tout le monde s'arrête. On vous laisse passer d'abord. Mais ici, gare à vous. Gare à vous, parce que les gens vraiment se comportent. Vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Et les gens, vraiment, la pollution sonore, vraiment, les gens exagèrent. Il faut que le ministère pense à cela. C'est ça, c'est faisable. Il suffit qu'on prenne 2, 3. Nous allons être disciplinés. Il ne sert à rien de mettre les radars parce que non. Il faut commencer à inquiéter les gens. On ne klaxonne pas n'importe comment.
Mais des fois, ça se passe.
Vous dérangez des malades même. Vous allez voir même au passage même
ou à quel niveau
au niveau de CBI des hôpitaux, je vais dire quoi.
Oui, justement.
Si vous êtes là-bas, les gens, les taximans, ils klaxonnent partout. Et dans leur code, il n'y a rien.
Le mal, c'est qu'on klaxonne pour chercher aussi même des passagers.
Des passagers. Ça n'a pas de sens.
Même devant un hôpital.
Il faut vraiment que le ministère, ils font beaucoup de choses. Ils n'ont qu'à continuer. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à comment vraiment essayer de commencer à régler ce. On a commencé avec les radars, c'est bon. Mais il faut inquiéter les gens. Ceux qui klaxonnent, ils sont des sauvages. Il faut vraiment qu'ils ne dorment pas. Qu'ils comprennent que non, ce n'est pas bien de se comporter comme ça.
Je voulais finir en interpellant.
Je ne sais pas quel service s'occupe des trous qu'on observe sur les rues un peu partout. L'année dernière, j'ai pris 3 mois pour interpeller le début. Ça, je parle de chez Amrat parle de Segbe où il habite actuellement. Chez lui, c'est à Mission Tové. Pour aller à Mission Tové, vous quittez le goudron.
C'est là.
Il y a un trou. En même temps,
le trou là est là.
Plus de. Ça, je sais pas. Et quand nous avons créé, entre temps, on est venu mettre juste un peu de la terre.
La pluie est encore importante.
La pluie.
Mais ça, c'est pas la responsabilité des mairies.
Bon, en tout cas, je lance l'appel. Ceux qui sont chargés, ils ne le font pas, ils n'ont qu'à le faire. C'est leur travail. Parce que ceux qui habitent Mission Tové, Covier, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment viennent de ces localités-là. Mais il faut voir comment, juste vous quittez le goudron, il y a un trou béant avec de l'eau et vraiment la souffrance. C'est-à-dire, il faut venir vous arrêter là-bas pour voir comment les gens souffrent. Mmh. La vraie souffrance, c'est là-bas.
La route,
il y en a partout, mais j'ai ciblé là-bas parce que nous le disons ici. Peut-être quelqu'un, quelque part, dit, qu'est-ce qu'il dit, il parle de quoi? Mais que quelqu'un aille vérifier ce que je suis en train de dire.
Même en ville, on observe vraiment.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
La route, là, il faut
les gens, des milliers de centres, des gens qui. Mais ils ont fait quoi pour qu'on les laisse souffrir comme ça? Or, comme vous voyez, on peut arranger le coin là en un rien de temps pour soulager les passagers, les usagers de la route et puis les riverains aussi. Parce que ceux qui sont à côté ici sont mal à l'aise. Vous voyez? Et l'année dernière, le même trou, j'ai pris 3 mois pour interpeller ceux qui sont chargés de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui s'occupent de ça. Je ne sais pas quel service, quand je le dis. Peut-être à un niveau donné, on va interpeller ceux qui ont en charge de régler ces problèmes.
D'accord, merci beaucoup Michel.
Je voudrais apporter du grain à moudre à mon ami Michel, qui n'a pas tort. Il y a 2 semaines, je devais passer là-bas pour aller à des funérailles, même le samedi prochain, sûrement que je dois être encore sur la route. Je ne vous dis pas le calvaire.
Oui.
Je ne vous dis pas le calvaire à partir de l'Ebacito.
Ouais.
Jusqu'à Mission Tové.
Le grand trou là, béant.
À part le grand trou dont il parle là. Ça fait 2 ans qu'il parle de ce grand trou. Parce qu'il n'en a pas plus, il n'en a plus parlé parce qu'ils ont arrangé un peu maintenant.
Un peu,
avec les deux grands trous là, c'est encore parti. Et tu vas aller mollo avant d'arriver. Si tu quittes 8h, tu dois atteindre Mission Tové peut-être 11h. Tu comprends en même temps que les nids d'autruche qui sont là-bas. Tu ne peux même
plus de poule.
Tu dois rouler à 20, 30 à l'heure. Nos histoires de 50, 40 à l'heure, c'est fini. Mais la route là est là depuis des temps immémoriaux. Pourquoi ils ne vont pas faire cet effort là de la bitumer? Il y a plein de gens là-bas. La route là long jusqu'à vers la V. Ça part de l'Ebacito, Mission Tové, Covier, jusqu'à la V, même Evli. Pourquoi ils ne le font pas? Je sais que j'ai appris que c'est un truc qui est en projet. Mais vivement, notre souhait, c'est que ça soit fait. Mmh. C'est vrai que nous autres, on passe des fois par Zanguera. Il y a 2 parcelles. Et la route qui mène de Zanguera à Mission Tové aussi, c'est une grande route qu'on peut aussi faire. Et qui traverse le contournement. À part ça, les véhicules des BOMAF, qui sont au niveau de Attila Monou et de.
Dapé ou bien?
Oui, ils ont des noms là-bas.
Dapé de quoi?
Apédokoué, c'est le quartier même, c'est Apédokoué. Mais Apédokoué qu'on est là. Il y a leur base là-bas. Nous prions nos amis chauffeurs de MAF de faire extrêmement attention. Parce que c'est les vies humaines qui sont en jeu. Des fois, ils prennent la route comme leur propriété, leur champ de cacao. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire qu'ils oublient même qu'il y a des gens qui passent. Rien à voir avec Ibomaf et son staff. Mais c'est les chauffeurs, tout comme les chauffeurs de Sotral, qui se comportent des fois, qui sont sur un terrain acquis et conquis. Ce n'est pas leur salon. C'est la route où tous les usagers ont le droit de passer. Donc, d'abord, Ebomaf a déjà fermé. Ils ont fermé leur entrée, l'entrée de leur base. Maintenant, quand ils rentrent même sur la route où tout le monde doit passer là, c'est priorité. Ils dépassent même le véhicule de Fong Asingbe. Pour te dire qu'ils n'ont qu'à faire, que leur patron nous entende, ils n'ont qu'à faire attention. Ebomaf fait un bon travail dans ce pays, mais il ne faut pas que ces gens-là, que certains indélicats arrivent à noyer
tout ce qu'ils font de bien.
Mmh. Mais des fois, même, il y a certains numéros même qui sont sur ces véhicules. Hein, quand il y a un chauffeur qui conduit mal, mmh. il semble qu'on peut
faire... Là, il faut que les usagers puissent faire attention et avoir un regard sérieux sur ces numéros-là pour appeler qui de droit. Mmh. Parce que c'est important. Des fois, je ne sais pas si c'est la fin ou c'est, je ne sais pas si... Ils veulent aller vite.
Je ne sais pas si sur les voitures, même des moments, il y en a, mais je vois certains véhicules quand même.
Le constat que j'ai fait, c'est le véhicule de citerne et le véhicule de transport de sable là.
Tout à fait.
Qui souvent, franchement, en plus des véhicules de sautral. La dernière fois, un véhicule de sautral a failli rentrer dans le consens. A failli rentrer dans le consens. Et ils se comportent comme des petits véhicules, quoi. Ils veulent foncer sur des gens.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Nous avons un invité aujourd'hui. C'est professeur Aoku Kokou. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, professeur, vous avez écouté notre mot introductif, ce sujet que nous avons, que Ambroise nous a justement amené et que nous avons débattu tout de suite. Mais on comprend tout simplement que tout récemment, vous avez lui-même fait un contrat citoyen. Est-ce que c'est sur la base même d'ailleurs de tous ces problèmes qui minent la société que vous avez fait ce contrat?
Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation, de saluer le travail que vous faites ici de façon quotidienne et de saluer des voix qui me sont familières, bien que je n'ai pas l'occasion de les voir, et faire un coucou à Kondo, et à qui je dirais ce matin que je suis le prototype du produit de son papa. C'est-à-dire que je suis non seulement son élève, j'ai été non seulement son élève, j'ai été aussi celui qui l'a coaché dans la vie, qui m'a montré les voies. Claudine, c'est ma sœur. Claudine, c'est ma sœur, on a fait les bancs ensemble. Bon, ceci dit, revenons à ce qui nous réunit autour de cette table.
Tout à fait.
Vous voyez, certains problèmes, et c'est là toute la difficulté de la chose, c'est que ces problèmes, s'ils ne sont pas pris dans l'ampleur de leurs mesures, on peut se contenter de solutions palliatives. Mais ça ne règle pas, en vérité, le problème. Le problème ici, c'est que nous avions un paradigme d'État qui pose problème. Le citoyen dans nos États ou dans notre pays, par exemple, le Togo qui m'intéresse, le citoyen n'a pas une place qu'on devrait avoir dans une république. Autrement, le problème citoyen devait être le problème du gouvernement, c'est le problème quotidien du gouvernement. Mais lorsqu'on regarde et on analyse de près, on a comme l'impression qu'il s'est fossilisé un État de type colonial, qui a des difficultés à s'affranchir de tout ce que cela peut être un État républicain. Et c'est là où toute la difficulté se trouve. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un qui est dans l'administration publique, il pense que les problèmes, c'est lui qui doit les gérer, c'est lui qui seul est autorisé à les gérer, c'est lui qui a la science pour les gérer. Et tous ceux qui peuvent apporter des idées, tous ceux qui peuvent dire des choses, ne sont pas aussi importants que ça. Et là où ça nous piège, c'est que nous acceptons cet état de fait et nous pensons que en fonctionnant comme ça, nous allons nous en sortir. Nous ne pourrons jamais nous en sortir. Puisque les problèmes, nous ne les prenons pas là où ils se situent. Dans certains pays, quand un citoyen est en danger, c'est toute la nation qui s'arrête pour qu'on sauve ce citoyen-là. Quand un citoyen a des problèmes, c'est toute une commune qui va s'arrêter pour pouvoir trouver une solution à ce citoyen-là. Voilà la question citoyenne. Et c'est pourquoi je pense qu'au Togo, nous avons un problème. Nous, les universitaires, comme je le dis, nous avons cette capacité-là d'observer, d'analyser, de voir réellement d'où vient le problème et où se trouvent éventuellement les pistes de solution. Et nous sommes arrivés à ce constat qu'il y a comme un projet d'immeuble que nous avions ensemble entrepris de construire, qui est le Togo. Mais malheureusement, nous avons raté un palier.
Et c'est quoi ce palier?
C'est le palier citoyen. C'est ça que nous avons raté. C'est-à-dire que si nous arrivons à faire du citoyen l'alpha et l'oméga de la question sociale, de la question politique, de toutes les questions, en ce moment-là, ce que nous aurons comme richesse, c'est quoi? C'est le génie que le citoyen a pour que la société, qu'on appelle la société civile, on peut l'appeler comme on veut, hein, que la société a, qui peut aider à sortir de certains schémas. Vous parlez, par exemple, de la circulation de certains véhicules. Au Bénin, dans le temps, il y a des tronçons que les camions d'un certain gabarit ne peuvent pas emprunter. On ne les empêche pas de l'emprunter. Il suffit tout simplement de mettre un cadrage au bord de la route. Ils savent qu'ils ne peuvent pas emprunter ce type de tronçon. Et il y a des solutions. Elles ne sont pas nouvelles. Elles sont même connues de beaucoup. Mais dans tout ce que vous dites, vous avez déjà esquissé même des débuts de solutions. Mais le tout, c'est qu'on tienne compte de ce que vous vous dites. Et qu'on ne considère pas qu'un citoyen qui est membre de l'administration publique et qui est à un poste donné devienne celui qui va régler le problème. Il ne peut pas régler le problème. Je dis toujours ceci, l'État est un régulateur. L'État a pour rôle de veiller à ce que l'action du citoyen se réalise. Or, dans nos pays, au Togo par exemple, le citoyen pense que l'État doit agir. Mais l'État, c'est combien de personnes? À peine 100 000. Et ces personnes-là ne peuvent jamais, même si on leur donnait tous les moyens du monde, ils ne peuvent pas agir en notre nom. C'est notre problème. Voilà un peu le paradigme sur lequel on a voulu initier une ingénierie qui propose aux citoyens togolais de revoir un peu sa posture par rapport à l'État et de dire que sa voix doit compter.
Mais concrètement, comment le travail se fera? Parce que, nous avons déjà, vous l'avez si bien dit, nous avons déjà une observation, un constat bien établi que le citoyen n'est pas, en quelque sorte, au centre même d'ailleurs de notre vie sociale, politique, de tout genre. Mais finalement, comment faire pour que le citoyen rentre au centre alors de tout?
Alors, c'est là où il faut rompre avec ce que nous avons l'habitude de voir ou de faire. L'habitude, c'est que nous n'avons pas, dans un vivre ensemble, défini ce sur quoi nous serons tous d'accord. Je prends un exemple simple. La question de la vie humaine. Qu'est-ce que les citoyens togolais pensent de la vie humaine? Est-ce qu'on peut s'en prendre à la vie d'une personne pour son opinion? Si nous sommes d'accord là-dessus, alors on rentre dans cette gouvernance-là. Mais si nous ne sommes pas d'accord, nous devons tout faire pour que le citoyen dise que, ah, attention, si vous touchez à la vie d'un Togolais pour des problèmes d'opinion, nous ne sommes pas d'accord et nous sommes unanimes pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et chaque fois que la question revient, on ne voit pas de différence entre nous. C'est cette capacité-là à s'entendre sur l'essentiel, pas tout, je dirais bien, sur l'essentiel qui peut amener à agir ensemble et à avoir une voix qui pèse. Et ça ne se fait pas dans des groupes qui le proposent à d'autres groupes, ce n'est pas ça. C'est toute une construction collective qui accepte que dans la différence, on s'entende sur l'essentiel. Et c'est ce palier-là qui manque.
Oui, mais professeur, ça doit émaner de qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, sur des questions basiques, on voit même d'ailleurs tellement de divergences.
Alors,
même au niveau même des professeurs d'université,
tout à fait.
Et sur des questions basiques, on est là et on se dit non, ça doit être par ici, ou bien nous avons cette manière de voir la chose.
Alors, nous avons constaté que globalement, sur cet essentiel-là, les Togolais sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Sauf que, selon que ce soit moi ou l'autre, je ne suis pas prêt à m'associer pour défendre cet intérêt-là. C'est ça la difficulté de la chose. C'est-à-dire que nous priorisons les postures, c'est-à-dire qui dit la chose, qui propose la chose, au détriment de ce qu'on doit faire de cette chose-là. Je dis, si nous arrivons dans un début de confiance où ce n'est pas l'individu qui porte l'idée qui est le plus important, mais la pertinence de l'idée elle-même, et que l'idée soit suffisante pour m'engager aussi à faire ma part, en ce moment-là, on aura un autre type de citoyen un autre type de situation. Il y a des pays où, j'avoue que l'État n'a pas besoin d'aller. L'État peut donner les moyens, peut accompagner. Le trou dont il est question, dans certains pays, c'est les citoyens eux-mêmes qui décident, dans leur particularité, dans la zone où ils sont, de dire, bon, ben écoutez, en attendant que l'État arrive, nous commençons par faire quelque chose. Et s'ils sont d'accord là-dessus, à partir de ce moment, l'État ne vient qu'en appoint. Mais le tout, c'est qu'il y a une légitimité de cet État-là. Parce que quand l'État veut parler à des citoyens, il faut que le citoyen se reconnaisse dans cet État. Mais si l'État ne lui donne pas les moyens de se reconnaître en lui, quand il parle, le citoyen ne répond pas. C'est ça la
vérité. Parce que la légitimité n'y est pas.
Tout à fait, la légitimité n'y est pas. Et donc, il faut que nous fassions un effort pour que nous, disons, nous rentrons dans une ingénierie de co-construction. Je ne connais pas très bien celui qui est en face de moi. Je sais qu'il est différent de moi. Mais est-ce que nous avions quelque chose de commun? Peut-être même qu'il découvrira que je suis plus proche de lui que de Bondio dont je parle, que je connais. Personne ne peut le savoir. Alors pourquoi ne pas partir sur cette base essentielle pour que nous-mêmes nous fassions déjà un travail de prise en charge de nos problèmes, de nos préoccupations? Pour que... C'est pourquoi nous avons voulu que ce contrat social ne soit pas le fait d'un groupe qui vient proposer quelque chose pour les Togolais, non. Nous proposons des pistes qui peuvent être élargies comme on veut.
Et quelles sont ces pistes?
Ces pistes, je vais juste les rappeler, c'est d'abord la question de l'apaisement social. Qu'est-ce que nous faisons pour que au Togo dorénavant, un individu, disons un citoyen quelconque, ne puisse pas être obligé de prendre la route de l'exil parce qu'il n'est pas d'accord avec l'autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'État? Qu'est-ce que nous faisons pour que ce citoyen ne se retrouve pas en prison? Parce que ces cas dont je parle, ce n'est pas seulement ceux qui te mettent aujourd'hui en exil. Ce n'est pas seulement ceux qui te mettent en prison. C'est que demain, c'est les mêmes qui vont. C'est ceux qui t'ont envoyé en exil ou en prison qui vont se retrouver en. Par le fait de la nature même, non pas de la gouvernance, mais du type d'État que nous aurons fondé, c'est-à-dire que nous aurons soutenu. C'est ça. En fait, celui qui est aujourd'hui acteur de ces dérives peut devenir victime de ces dérives.
Tout à fait.
Alors, à partir de ce moment, le confort, c'est quoi? C'est qu'on s'entende pour que ça ne se fasse pas ainsi. Parce que demain, tu peux te retrouver à la place de l'autre.
Mais qui prendrait aujourd'hui la manette? Qui dira que, mais oui, désormais, nous allons mettre cette base-là?
Justement, c'est le citoyen, ce n'est pas l'État. C'est le citoyen.
Ah bon?
Parce que, oui, parce que j'estime que si le citoyen est suffisamment honnête, suffisamment franc pour aborder certains problèmes, s'il a conscience de ce qu'il dit, de la vérité de ce qu'il dit et de la pertinence de ce qu'il dit, il a les moyens d'agir. Il a beaucoup de moyens. La formation, la conscientisation, la mobilisation. Je vais donner un exemple.
Mais là aussi, il faut l'adhésion de tous.
Pourquoi vous voulez que ce soit l'adhésion de tous? Ça peut être l'adhésion tout simplement de ce que le professeur Gouaké appelle le seuil à partir duquel tout bascule. C'est-à-dire que vous êtes une majorité qui croyait en une chose et individuellement, vous ne pouvez pas les défendre. Individuellement, vous ne pouvez pas. En groupe partisan ou parcellaire, vous ne pouvez pas les défendre. Mais une fois que chacun fait l'effort d'aller vers l'autre, en lui disant, moi aussi je ne suis pas d'accord avec toi, il va se dégager une majorité dont le seuil peut faire basculer les choses. Et c'est pourquoi nous disons que c'est quand les sociétés atteignent ce seuil-là qu'ils se mettent en marche pour réclamer leurs droits. Mais s'ils ne le font pas ainsi, ils n'ont pas la possibilité de peser sur l'échiquier. C'est ça un peu la difficulté de la chose. Et donc, ce que nous, en tant qu'universitaires, nous proposons, c'est une ingénierie, c'est-à-dire une certaine façon de faire pour que, ensemble, nous puissions s'entendre sur l'apaisement du climat social, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, nous parlons de séparation de pouvoirs, mais quand nous parlons des institutions qui les incarnent, nous parlons d'institutions républicaines. C'est bien républicaine, ce n'est pas des institutions présidentielles. Tout se joue à ce niveau-là. Une institution républicaine, c'est une institution dans laquelle la République se reconnaît. C'est des membres d'une institution qui ont été choisis par la République. Parce qu'on est conscient que le chef de l'État, là où il est lui-même une source d'insécurité pour lui-même. Parce que si on ne lui met pas les balises, tout de suite, il peut partir dans tous les sens, dans son action. À partir de ce moment, on sépare les pouvoirs pour que le citoyen qui est incarné dans ces institutions-là le protège contre lui-même. Et c'est en cela que la sécurité du chef de l'État par les citoyens est plus importante que sa sécurité personnelle. Si aujourd'hui nous ne voulons pas que quelqu'un touche à notre président parce que c'est nous qui l'avons élu, nous nous reconnaissons en lui, nous lui avons donné mandat pour être celui qu'il est,
il a la légitimité.
À partir de ce moment, on peut tout faire, on ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Ensuite, l'armée. Aujourd'hui, c'est que dans nos pays, on a hérité d'un système qui fait de l'armée un outil d'asservissement du citoyen. Aujourd'hui, nous devons être à même de pouvoir enseigner et dire que l'armée, en fait, protège un territoire. Il ne se met pas contre le citoyen, il protège le territoire. Les services de sécurité, c'est eux qui sont garants de la police interne. Maintenant, il ne faut pas détourner l'armée à des buts de se protéger parce que les institutions ne vous protègent pas bien. C'est-à-dire quoi? Vous voulez faire certaines choses, les institutions vous disent ne le faites pas, parce que si vous le faites, vous allez mettre en danger toute la communauté, et vous dites bon, qu'à cela ne tienne, moi j'ai l'armée, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et c'est cette façon de voir l'armée qu'il faut aussi corriger chez nous pour que nous ayons des gens qui petit à petit rentrent dans la dynamique du fait que, en fait, quand on est dans l'armée, quand on est dans les forces de sécurité, c'est au service du citoyen d'abord, et non au service de l'État. Parce que je reviens sur la question, hein. La question de l'État est très très importante. Autre chose, la gouvernance. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons de corruption. On met en place des institutions qui n'arrivent pas à arriver à nous guérir du niveau de corruption. Alors, qu'à cela ne tienne, pourquoi on en arrive à ces schémas? L'une des pistes, c'est très simple. Je vais dans mon village. J'ai un cousin, un frère, un ami qui est agent dans l'administration publique, dont le salaire ne lui permet pas de construire cette maison-là. Mais moi, qui n'est pas dans cette configuration-là, je trouve que c'est une réussite. Alors qu'en vérité, il n'a fait que détourner mes moyens, ou nos moyens, pour s'enrichir et construire ce truc-là. Et aujourd'hui, on fait la coubelle devant cette personne-là qui nous a servi, qui prend nos moyens pour nous asservir, alors que celui-là devait être une préoccupation. Mon frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu as là? Est-ce que tu es sûr de là où tu l'as pris? Est-ce que ce n'est pas ma chose que tu t'es servi pour? Ce sont des questions sur lesquelles on peut. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'état, de la santé, de l'éducation, etc. J'avoue que c'est avant tout nos problèmes. Quand on parle de l'éducation, ce n'est pas à l'État de définir une politique en matière d'éducation et de dire les priorités sont là. Il y a une démarche pour parler de l'éducation. L'éducation, je dis toujours, est une chose trop sérieuse pour être confiée à l'État ou à un groupe. À partir de ce moment, la déclinaison se fait au niveau de la société. Il faut que lorsqu'on parle de l'éducation, qui marche ou qui ne marche pas, que les citoyens sont là et qu'ils disent ce que vous avez comme configuration, ça a marché jusqu'ici, mais maintenant ça ne marche plus. Puisque l'enfant qui me revient, je ne me retrouve pas en lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous enseignez en classe, vous en tant qu'enseignant, vous enseignez les valeurs en disant on ne vole pas, on ne triche pas, on ne fait pas ceci. Et que l'enfant dans la société, à travers l'action des citoyens, voit le contraire, c'est qu'au même moment où vous le formez, lui le déconstruit. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour que nous ne le déconstruisons pas? Que l'enseignant, parfois je dis, enseigner la soustraction, ce n'est pas pour soustraire de l'argent à l'État. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quand nous apprenons la soustraction, c'est que quand nous arrivons quelque part, nous regardons ce que nous pouvons soustraire à l'État. Et donc, il y a ces questions. Les élections. En fait, les élections ne doivent pas nous diviser. Si les citoyens pensent que le meilleur moyen d'avoir un représentant, c'est à travers les élections. Alors, sur quoi qu'est-ce que nous pensons qui est le meilleur moyen pour nous de faire des élections transparentes et qui nous garantissent que réellement celui que nous les élisons, nous nous reconnaissons en lui. C'est pas d'abord nous convaincre nous-mêmes que nous sommes acteurs de ce que nous allons faire. À partir de ce moment, si nous mettons en place un mécanisme, il faut qu'on s'assure que le mécanisme-là est un ensemble de règles auxquelles nous tous nous convenons. Parce que si nous ne convenons pas à ça, nous pouvons faire 1000 élections, on n'aura pas des résultats qui conviennent à tout le monde. Or, les élections, c'est l'un des éléments sur lesquels on ne s'entend pas. Alors, à quoi ça sert d'aller à des élections sur lesquelles on ne s'entend jamais, en sachant que les règles du jeu sont faussées à la base? Je dis toujours que ce n'est pas le pied, ce n'est pas le pantalon qui est gondolé, c'est le pied qui est gondolé, et nous accusons le tailleur. Non, en fait, le tailleur n'en est pas pour rien. Les règles du jeu, moi je veux jouer basket, toi tu veux jouer du rugby, lui il veut jouer du football. Mais attendez, on parle de quoi là? Rentrons sur l'ère de jeu, on n'aura pas le même résultat.
Oui, parce que les disciplines sont différentes.
Mais justement, parce que ça devait normalement nous réunir. C'est ce qui devait nous réunir.
Normalement.
Mais si on n'a pas d'entente là-dessus, il ne faut même pas que quelqu'un se perde son temps à aller dire, bon, moi j'ai été... En sachant que lorsque vous avez deux personnes ou trois personnes qui sont en concurrence, l'un, vous m'excusez, hein, c'est un perclus, l'autre, il a les deux pieds, mais bon, il a ce que... Et puis l'autre, lui, il a... un char tiré par 1000 chevaux et avec tous les moyens de l'État.
Ça veut dire que c'est la
concurrence. C'est pas de la concurrence.
Il y a déjà l'inégalité.
C'est déjà faussé à la base. Ça ne donnera aucun résultat à la sortie. Et donc, il faut que nous revoyons ces éléments-là pour que nous puissions nous entendre. D'abord, l'identification. Ce n'est pas le jour des élections qu'on identifie les individus. Il y a eu un temps où on nous a compté. Nous sommes 8 millions, je ne sais pas combien. On nous a compté. Alors, à partir de ce moment, il faut absolument que le fichier là s'améliore. On ne s'agit pas de nous décompter seulement. Maintenant, il faut faire un travail de peaufinage pour voir qui a quel âge, qui s'appelle comment, il vit où, etc. Et qu'un état civil en découle. Dans certains pays, c'est la carte d'identité qui sert seulement à faire. Et la carte d'identité se génère de façon automatique. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une demande. Une fois que vous êtes dans la base de données, à partir de ce moment, les éléments qui vous configurent sont là et on peut faire le truc.
D'accord.
Donc, il y a ces questions-là.
Voilà.
L'éducation, la santé.
Tout à fait. Il y a d'autres domaines, et bien sûr, alors de la société.
Alors, ce que nous disons, ce qui est la rupture, c'est pas de d'énumérer ces points-là. Quand vous voyez un peu, vous écoutez les Togolais, vous voyez qu'ils ont déjà quelques perspectives sur ces questions-là. Ils disent ce qu'ils pensent sur ces questions-là. Mais c'est maintenant arriver à ce qu'ils puissent converger, non plus en tant qu'individu, mais en tant que vision, pour que tout le monde travaille à avoir, à asseoir cette vision-là et à la partager. C'est-à-dire que du moment où je participe, je deviens acteur et je deviens le défenseur de cette vision-là.
Avec ce contrat citoyen, comment vous le ferez pour que cette convergence ait lieu?
Alors, nous disons que nous ne le ferons pas. C'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire, c'est nous, en tant que, non pas groupe, mais en tant que citoyen
togolais.
Si aujourd'hui un citoyen qui regarde cette vision estime qu'il y a un point sur lequel lui va apporter une solution, je donne par exemple l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, c'est quoi? On investit des milliards. Ça fait à peu près le 21 ou 23% du budget chaque année que nous investissons dans l'éducation. Mais en fait, c'est pour préparer quoi? C'est pour préparer des enfants qui vont sortir 13 ans après. Quand ils rentrent au CPA, ils ont un an. Peut-être c'est 13 ans, 14 ans, 15 ans après. Mais est-ce que nous allons attendre pendant ces 13, 14 ans-là pour développer nos pays? C'est qu'il y a une question de l'éducation qui n'est pas prise en compte. C'est celle qui permet de voir celui qui est sorti du système, qui viendra vous faire un branchement, qui viendra coiffer la toiture, qui viendra faire les briques. Il faut le former. Si vous ne le formez pas, lui, au moins, c'est le quotidien. C'est celui qui doit faire le travail tout à l'heure. Et donc, la question de l'alphabétisation ne devait pas être une question, un épiphénomène de l'éducation. Déjà, à 17h, nous fermons nos salles de classe. Et nous demandons de l'argent pour construire des apatames où nous allons mettre des jeunes qui ont besoin d'une formation pour être opérationnels demain. Nous allons chercher de l'argent pour construire des apatames. Il y a un problème. C'est-à-dire que, fondamentalement, si on n'analyse pas bien les problèmes, on ne peut pas non plus avoir l'adhésion. Et on ne peut pas savoir aussi où nous allons.
D'accord, voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Ambroise, nous avons écouté le professeur Aoku sur cette question. Et vous avez écouté aussi les pistes. Hein. Il a énuméré un certain nombre d'heures de pistes. Mais je me demande, est-ce que ceux qui sont à la tête n'ont pas, en quelque sorte, un travail à faire en ce sens pour que, du moins, le citoyen soit totalement impliqué pour cette convergence dont on parle?
Oui, je crois que le professeur a été vraiment dense dans son développement. Les phrases et les mots utilisés ont été bien choisis, sans grabuge non plus, pour que tout le monde puisse en prendre l'élément qui le convient. Mais l'essentialité, c'est qu'il a tourné autour du citoyen. Tout doit tourner autour du citoyen. C'est ce que j'ai retenu. Et quand on parle de citoyen, seul lui détient la souveraineté dans un État. Parce que ceux qui gouvernent sont appelés à être désignés ou élus par ce même citoyen. Et donc, tout part du citoyen et tout retourne au citoyen. C'est le résumé que je fais de ce qu'il a dit. Et si le citoyen doit être au centre du développement, de l'expression de la souveraineté d'un État, je crois que ce citoyen-là doit être formé. Il l'a aussi dit. Et si ce citoyen doit être formé,
il doit être conscient.
Conscient de la formation qu'il fait et refléter le résultat que l'on a sur la gouvernance de l'État. Et je l'ai toujours dit, et c'est bien que nous, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont allés dans le sens d'un régime parlementaire. Même si nous, dans notre cas, on se retrouve toujours dans la 4e République. Parce que je l'ai développé ici, quand on prend le régime parlementaire, ça revient toujours aux citoyens. Parce que le régime parlementaire, c'est l'expression de la volonté populaire. On renvoie le pouvoir au peuple. Et quand le pouvoir est renvoyé au peuple, le peuple détient l'entièreté et tout le pouvoir dans sa main. C'est lui maintenant qui offre le pan du pouvoir à ceux qui sont au gouvernail, à ceux qui sont à la gouvernance. Et donc, ils ne peuvent rien faire sans faire un recours à ce citoyen. Mais quand ceux qui sont au sommet négligent le citoyen, le moment viendra, le citoyen prendra le taureau par les cornes et les mettra hors d'état de nuire pour reprendre son pouvoir. Puisque Montesquieu l'a dit, le pouvoir appartient au citoyen. Et là, quand on nous dit que la souveraineté appartient au peuple, ça a tout son sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a parlé de l'éducation à la base. J'ai parlé ici, j'ai dit la dernière fois de la morale. Que nous, en notre temps, dans les années 70-80, on a eu arrivé le matin en classe, on écrit la morale au tableau. Et cette morale, c'est des valeurs que nos enseignants, qui nous frappaient en ce temps-là, il en sait quelque chose, qui nous malmenaient en ce temps-là. Et quand tu vois ton enseignant, tu risques même de ne pas aller à l'école. Donc, Michel en a vécu, c'est sûrement. C'est cette morale-là qu'il faut nous ramener. Et la morale, le citoyen et la politique, il doit y avoir forcément. Pas encore pas le citoyen, ça renvoie à la politique. Tous les domaines renvoient à la politique. Parce que, en fait, la question, les questions politiques, les questions citoyennes. Quand on parle de la faim, ça renvoie à la politique. Quand on parle de la gouvernance d'une route qu'on a mal construite, ça revient toujours au citoyen. Parce que après, tu construis pour l'usager, et l'usager, c'est le citoyen. Donc, moi, j'ai été vraiment éberlué et positivement touché par tout son développement, qui ne doit choquer personne. Nous, on est certainement dans nos développements un peu vincifs ou un peu durs, mais à chacun sa manière de voir les choses. Tout comme le professeur Dessay, quand il vient ici, il est très sobre, les trucs, mais il développe ce qu'il a à dire. Bizarrement, c'est ce que lui aussi il a fait. Il appartient au gouvernant d'écouter. Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous c'est ce qu'on veut, hein. Non. On n'est plus sur ce terrain-là, c'est fini. Vous avez dit qu'on vous a élu. Qui vous a élu? C'est un peuple. Et ce peuple, ça se résume aux citoyens. Et si vous pensez que le citoyen est le centre de tout, vous devez tout faire pour répondre aux désidérateurs de ce citoyen. Parce que, après tout, vous lui rendez compte. C'est comme les maires qu'on a élus. Il y a certains maires qui se comportent comme nous sommes dans une monarchie. Ils décident ce qu'ils veulent. Même les conseillers ne sont pas prêts à leur dire non, ça ne passe pas. Et le coin du citoyen ou la case du citoyen, dans certaines mairies, ce n'est pas respecté. Ça doit commencer par là. Ça doit commencer par la case du citoyen, la voix du citoyen, l'intérêt du citoyen. Ce que le citoyen veut, ça doit commencer par là. Pour que ça réagisse sur toute la République.
D'accord. Michel, finalement, c'est le citoyen qui doit être au centre de tout.
Ah oui. Je ne pense pas que ceux qui gouvernent, le gouvernement de par le monde, je ne pense pas qu'il y a certains gouvernants qui, dans leur gouvernance, ignorent le citoyen. De toutes les façons, si les gouvernants ignorent les citoyens, ça va les rattraper un jour ou l'autre. Parce que, rappelez-vous, on parle de contrôle citoyen de l'action publique. Ça veut dire que c'est les citoyens qui ont ce pouvoir-là de dire que vous avez posé tel acte à ce niveau. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Par rapport à ce que vous avez posé comme acte. Mais en filigrane, il faudrait que les gouvernants aient aussi le réflexe de rendre compte. Rendre compte à qui ? Aux citoyens. C'est pour vous dire que dans tous les cas, le citoyen est au centre de tout. Et on ne peut pas s'en passer du citoyen. Quelqu'un le disait, si vous décidez sans nous, c'est que vous êtes contre nous. C'est pour dire que quoi ? Les individus, les citoyens, lorsque vous ne prenez pas compte ou vous ne tenez pas compte de leurs aspirations profondes, vous pouvez beau avoir de belles initiatives, mais vous pouvez rater la cible, vous pouvez rater ce que vous voulez faire. Et ne soyez pas surpris que vous ayez des réactions contraires à ce que vous, en tout cas, vous aurez voulu espérer. C'est pourquoi, et ce que le professeur dit, je ne le connais pas, je ne connais même pas le mouvement de l'association, donc, mais l'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Dans tous les cas, c'est que ce soit ici comme ailleurs, tout doit partir des citoyens et tu dois revenir aux citoyens. C'est en le faisant que nous pouvons gagner une paix durable. Justement. Parce que j'ai toujours aimé le professeur béninois Albert Touadjiré, paix à son âme, qui a sorti une œuvre dans laquelle il parlait de minimum commun social. Si dans un pays vous ne pensez pas au minimum commun social pour chaque citoyen, c'est que attendez-vous que ça peut durer, mais un jour vous allez vous rendre compte que vous étiez avec des gens qui ne sont pas avec vous. Vous voyez, vous étiez avec des gens qui ne sont pas avec vous parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, que les gouvernants s'y tiennent compte des citoyens qui pensent au minimum commun social qui doit garantir, je le répète, la paix durable.
D'accord. Alors, professeur, oui. C'est vrai, nous allons nous intéresser à cette question de 5e République, c'est-à-dire la nouvelle constitution. C'est vrai, on est même d'ailleurs dans les moments transitoires, comme cela est dit, où les dispositions transitoires sont en cours. Alors, et finalement, on connaît en quelque sorte le début ou le démarrage alors de cette question nouvelle constitution. Alors, finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout se fait sans le citoyen?
Oui, mais c'est que c'est plus grave que ça. Si au moins ça se fait sans le citoyen et que c'était bien fait, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, le problème, comment est-ce qu'il est arrivé ? C'est pas cette vision-là qui est la première de nos actions. Hein. Nous avons déjà l'entame même de des choses. Nous avions attiré l'attention du chef de l'État à travers des lettres ouverte qu'on lui a écrit, des pétitions qu'on lui a, en lui disant que nous allons vers un danger.
Est-ce que vous avez reçu
Non, nous n'avons pas reçu de réponse. Mais ça ne veut pas dire que nous allons renoncer. Parce que nous avons l'avantage d'écouter tout le monde et de fréquenter même ceux qui vont proposer ce service-là.
Mais là
nous
aussi,
disons, attendez, oui. Je vais vous dire une
d'accord,
chose.
D'accord, allez-y.
Écrire une constitution, ce n'est pas un droit de dissertation universitaire, proposer une constitution pour le Togo qui... Chose. Alors, nous avons d'abord considéré le plaidoyer qui a conduit à cette constitution. Quand vous voyez le plaidoyer, vous dites, mais il y a un problème. C'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ont des difficultés à gérer un pays, qu'ils ont des problèmes économiques, qu'ils ont des problèmes politiques, que les élections se passent toujours dans de mauvaises conditions, etc. etc. Alors, de façon inductive, c'est de dire, bon, ben écoutez, venez, on va s'asseoir, on va en parler. Que chacun apporte son idée. Mais ils me disent, non, ce que nous allons faire, c'est que vous nous aviez donné une chaise pour nous asseoir, pour faire le travail. Maintenant, donnez-nous un lit, on va se coucher et puis on fera le travail. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'opportunité de la chose. Ensuite, le contenu. Hier, un détail, hein, peut-être que ça ne va pas vous dire grand-chose, mais ça... L'ancien ministre de la Justice a été...
Nous s'est retourné,
voilà, a été nommé, je crois, un poste à la présidence.
Tout à fait, conseiller juridique.
Alors, quelqu'un qui m'appelle, me dit, mais on connaît le nom du président de la République. On connaît le nom du président de la République. Je dis que, donc c'est Puce. Je dis, mais tu as bien lu ce qu'on a dit à propos de Puce. Il a appelé à une fonction la présidente de la République. Il n'est pas président de la République. Non, c'est vous dire quoi? Dans le texte, on sait que la concentration du pouvoir se trouve à un niveau donné. Et tout le monde fait le lien entre le chef de l'État actuel et cette concentration du pouvoir. Entre-temps, le texte propose qu'il y ait une partie de ce pouvoir-là qui soit conférée à un autre personnage de l'État. Dans le texte, hein, dans le texte. Mais oser un seul instant proposer un nom. Mais ceux qui ont proposé rapidement le nom du président du Conseil des ministres, mais ils sont à l'aise. Mais qui nous propose alors celui qui potentiellement au Togo pourrait occuper le rôle pendant du président de la République. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un courant pour le faire. C'est en cela que l'action citoyenne devient très intéressante. Le citoyen est libre de dire, ben, écoutez, de mon point de vue, Luc ou Pondio pourrait prétendre à ça parce que ça ne me gêne pas. En regardant son pedigree, je crois qu'il pourrait, même si ce n'est pas lui plus tard. Mais moi, j'ai donné mon opinion. C'est ça une république. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de laisser le citoyen vous dire à peu près qu'est-ce qu'il pense, comment il pense la chose, ça pose un problème. Et quand déjà on voit même la nature de la désignation du président du conseil, aujourd'hui on se dit, mais n'importe quel citoyen venant de n'importe où, qui vient au Togo, qui a une nationalité, qui a un truc, par toutes les voies, on sait hein, que les gens ont les moyens de le faire, hein, par toutes les voies et autres là. Si il arrive à faire le tour des députés qui sont à l'Assemblée nationale et convaincre que, bon, voilà, carte sur table, on parle clair, voilà ce que ça me coûte. Mais le groupe peut changer de leader, et donc on va nous changer un chef d'État sur la base, tout simplement, d'un truc entre copains et puis coquins. Est-ce que vous voyez, c'est le risque. C'est là où se trouve le risque. Et nous disons, attention, attention, attention. Sinon, on risque de partir dans tous les sens. Mais l'expérience du parlementarisme, nous la connaissons très bien, nous l'étudions chaque fois. Mais nous savons que l'élément fondamental qui est au cœur du parlementarisme, c'est l'élection. Et l'élection doit être suffisamment organisée pour que le citoyen décide de qui va parler en son nom. Parce que au moment où la personne va parler en votre nom, vous ne pourrez plus vous exprimer. De deux, il faut que ceux qui incarnent l'action publique, l'action représentative, soient des élus. À quelque niveau que ce soit, au niveau local, au niveau régional, ou à...
Ils aient la légitimité.
La légitimité. Dans tous les pays parlementariste, ou les régimes parlementaires, ce minimum-là est la base. Mais aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que les élections se passent dans les conditions pour avoir la possibilité de désigner ceux qui peuvent aller s'exprimer ou non? On va me dire, oui, on a organisé des élections. Je dis, bon, vous avez parlé des élections, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si nous ne choisissons pas à un niveau donné, les personnes qui vont incarner la totalité du pouvoir que nous souhaiterons une chose, c'est qu'il y a un problème et nous n'allons pas nous en sortir. Et on a fait des expériences qui étaient plus profondes, mais qui peuvent inspirer d'autres pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. C'est sur cet aspect-là que nous attirons l'attention du chef de l'État et nous disons hein, qu'en tant que citoyen, cette 5e République-là, il faut à tout prix l'empêcher. Parce que nous allons vers des lendemains qui vont nous déchanter. Mais ce serait trop tard, puisque nous serons déjà, nous, qui sommes concernés, qui sommes l'alpha et l'oméga, nous allons être encore victimes d'une situation.
Alors, oui, professeur, je vous ai posé la question de savoir si le chef de l'État vous a répondu quand vous avez envoyé un courrier. Et vous avez dit non, que le chef de l'État ne vous a pas répondu. Non. Mais est-ce que ce n'est pas un mépris du citoyen?
Non, ce n'est pas un mépris. Le chef de l'État est libre. Du moment où il est le représentant élu, il est libre de dire...
Alors, est-ce qu'il a lu?
Il a lu. Voilà.
Parce que ça, les lettres arrivent là-bas.
Le problème que nous avons au Togo, c'est cet état-là. C'est l'état. C'est la nature même de l'état. L'État, en vérité, quand vous vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que ben, vraiment, c'est un truc bizarre, ubuesque, que vous ne comprenez pas. Normalement, quand on vote le budget de l'État, les lignes sont bien fixées en disant tel ministère a pour rôle tant, vers mission ceci, etc., résultat tant, tant du temps, montant affecté et autres. Mais quand vous voyez comment est-ce que l'action est pour avoir ce résultat, mais c'est celui qui a la manœuvre, qui doit vraiment le faire, qui se plaint. Alors que, mais l'État, le chef de l'État qui est l'incarnation au niveau du sommet de l'État, lui a donné tous les pouvoirs pour le faire.
Lui a conféré
mais pourquoi pouvoirs. Il se plaint alors de ne pas pouvoir le faire? Alors il y a un problème à ce niveau pour identifier qui est derrière l'État.
D'accord.
Est-ce que vous voyez?
Oui, je vois.
Donc ça pose des problèmes. Et des fois, nous avons l'avantage de recevoir beaucoup de collègues qui ont été en responsabilité au niveau gouvernemental. Quand ils viennent et ils sont déçus, en désarroi, et qu'ils vous disent « Ah, on ne pouvait rien », je dis « Mais à pourquoi tu as été ?» Tu savais que tu ne pouvais rien, pourquoi tu as été ? Alors, nous sommes les citoyens qui sommes plus ou moins responsables de nos propres turpitudes. Parce D'accord. que si vous allez que vous dites que, bon, ben écoutez, cette année, vous m'avez affecté ça, je n'ai pas pu atteindre mes exigences. Je m'excuse, président de la République, je suis en capacité de ne pas le faire. Vous pouvez choisir quelqu'un à ma place. Je crois que le chef de l'État va avoir alors une posture raisonnable pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Des fois, des gens vous disent, j'ai vu le chef de l'État, ça vient du haut, mais on ne sait pas quel haut. C'est ça la vérité. Et quand d'autres personnes à l'extérieur savent que vous fonctionnez de cette manière-là, ils rentrent dans le système et ils le détournent à leur profit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Au plan économique, au plan des choses, on vient vous prêter des expertises, vous ne comprenez rien, alors que vous avez des gens qui peuvent facilement vous proposer des solutions en interne.
Puisque le terrain est déjà fertile pour tout ça. Alors, professeur, il y a Michel qui a une question pour vous.
Il a bien parlé de la citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est notre devoir, nous tous. Nous aspirons à être de bons citoyens demain. Et nous voulons que l'État forme de bons citoyens pour demain. Mais il a ouvert une brèche en parlant de la nouvelle constitution. Il disait que on doit empêcher en tout cas la mise en œuvre de cette constitution.
Vous savez pourquoi? La raison est simple.
Je n'ai pas encore compris, d'autant plus que nous ne sommes qu'au début. Nous avons 12 mois, nous l'avons même écrit aujourd'hui, 12 mois pour mettre progressivement les institutions
en place,
les institutions liées donc à cette nouvelle constitution. Et nous n'avons pas encore le pied dedans, mais eux ils voient déjà les dangers. C'est là où je n'ai pas compris
tout à fait,
d'où vient le danger. Et puis deux, vous avez dit ici que si aujourd'hui il faut dire de choisir un président de la République pour incarner, parce que la nouvelle constitution a créé au poste du président de la République, on ne serait pas en mesure de le choisir. Je n'ai pas compris pourquoi on ne serait pas en mesure de choisir un président de la République.
D'accord, professeur. Non,
de suggérer.
De proposer.
De proposer, comme on a proposé pour le président du Conseil des ministres, rapidement un nom. Et on n'a pas encore de nom pour le président de la République.
Non, ça y est, qui circule. Là-bas, on sait, c'est le chef du parti. Qui a gagné les élections. Là-bas, on sait que c'est automatique.
Et on sait comment un chef de parti est généralement désigné. Vous avez vu toutes les querelles qu'il y a autour des chefs de parti. Moi, je suis le chef de parti aujourd'hui. L'autre dit que c'est l'autre qui est chef de parti demain. Et on voit déjà tous dans tout quoi on va nous enfermer. Mais le premier aspect est très, très intéressant. On nous évoque le fait que dans des pays où on n'a pas mis en place un truc, l'État veut fonctionner pendant des années. Voilà, c'est parce que les institutions sont stables que l'État fonctionne normalement, même si on n'a pas choisi à certains niveaux des responsables. On n'a pas étoffé certaines responsabilités. Mais ce que nous disons est tellement fondamental que je ne vois pas pourquoi les gens ne voient pas cela. Montrez-moi un seul pays qui navigue entre deux constitutions. Un seul. Juste pour mon école, c'est-à-dire pour que
votre gouverne, quoi.
Moi, ma gouverne. C'est-à-dire, montrez-moi un seul pays où dans le pays, quand on arrive, il y a deux constitutions et on navigue à vue entre les deux constitutions. Parce que c'est le socle sur lequel tout est construit. À partir de ce moment, nous disons non. Si vous n'êtes pas encore prêt pour aller en aventure, ne cassez pas le truc que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous sommes en rupture parce que nous pensons qu'il ne faut pas nous donner... Il ne faut pas créer de l'instabilité là où ça n'existe pas. Et puis, nous avons un truc sur lequel on a plus ou moins tenu des engagements. Il faut que chacun les assure pour se garantir le droit d'être ensemble. C'est ça. C'est tout ce qui nous amène à nous dire, non, attendez, il y a pas, vous ne pouvez pas vous asseoir, disons, faire deux fondations sur deux chantiers différents et dire que vous voulez construire une seule maison. Mais non, vous ne pouvez pas, vous choisissez.
D'accord.
C'est ça le problème. Parce que ceux qui nous disent qu'il y a possibilité de préparer la chose, comment on l'appelle là, étape par étape, le truc, je dis, mais attendez, un État ne peut pas se permettre de prendre le risque de comment on l'appelle là, de créer pour lui seul son propre séisme. C'est-à-dire qu'il va le détruire parce qu'il ne connaîtra pas l'amplitude du séisme.
Tout à fait.
C'est ça le risque.
Voilà.
C'est
moi, ça, je
n'ai pas une question, mais le professeur Aoko a soulevé un volet qui m'a fait peur. C'est le fait que n'importe quel kidam devienne patron de la République togolaise demain. Un Tchadien ou un Malien peut devenir patron de la République togolaise. Puisqu'il n'y a pas un encadrement juridique clair. Parce que déjà, le président du conseil est désigné sans débat à l'Assemblée. Est-ce que tu te souviens de
justement
ça? Et donc, quand la personne est désignée sans débat, donc nous ne sommes pas dans une démocratie. Alors que le régime parlementaire, par essence même, c'est l'expression de la démocratie.
Il doit être élu débat. Avant d'être désigné.
Voilà. Il doit être élu avant d'être désigné. Et comme on nous dit que le président là, automatiquement, c'est celui qui est le président du parti majoritaire qui est désigné. Il suffit que quand un richissime colombien, baron de la drogue, négocie avec nous, on se connaît, c'est-à-dire on sait comment l'argent circule. Hein. On vous dit que, ok, il est désormais, il a construit sa maison ici, il a désormais la nationalité togolaise, c'est un colombien, tout le monde voit que c'est un colombien. Et il donne 200 millions,
il est togolais.
200 millions, 200 millions, lui est devenu togolais, 200 millions à chaque.
Son parti, c'est lequel?
Son parti, c'est le parti qui viendra gouverner. Je ne parle pas d'aujourd'hui. À moins que demain, dans deux, trois mois, dans un an, on puisse changer cette constitution-là. C'est pourquoi les gens disent de revenir à la 4e, à la 4e de République. Donc, pour vous dire que ce Colombien-là, ayant suduré tout le monde, ayant corrompu tout le monde, il devient chef. C'est-à-dire que le chef du parti majoritaire est en même temps premier ministre ou chef du conseil des ministres. Nous sommes foutus.
Ce n'est pas automatique.
Mais qui te rassure, mon frère Michel? Rien ne te rassure.
C'est que l'État ne doit pas.
La manière dont la chose a été faite actuellement, c'est quand il a dit que j'ai ouvert les yeux. C'est pourquoi j'avais écrit que nous serons dans un embrouillamini. Nous sommes dans un. Ils vont droit dans un engrenage. Fondassimbé même sera surpris. Il risque de se retourner. Ça va se retourner contre lui.
D'accord, merci. Notre temps est déjà avancé. Professeur, citoyens vous ont écouté, vos concitoyens d'ailleurs, j'allais dire, vous ont écouté, vous avez également expliqué un certain nombre de choses, et donc certainement qu'ils ont des questions à vous poser, et puisque cette émission est interactive, nous allons leur donner aussi la parole de s'exprimer, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à ceux qui font que nous arrivons aussi à faire bien cette émission. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous sommes avec professeur Aoko Kokou, professeur à l'université de Lomé, et bien sûr il est également dans le mouvement Contrat Citoyen, et donc nous avons discuté d'un certain nombre de sujets ici, vous nous avez suivi, c'est maintenant le temps alors de lui poser des questions. Professeur, je vais vous prier alors de porter le casque qui est devant vous, voilà, pour écouter mieux nos citoyens, nos auditeurs. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Patrice.
Monsieur Patrice.
Ali Bassito.
Voilà, Ali Bassito, allez-y.
C'est juste pour embrasser mon Dieu, Michel, concernant les bus de Sotral et Bomas. vraiment, si vraiment leur patron entend, ils n'ont qu'à prendre des dispositions. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ou bien ils se prennent surtout pour les Boumaf, c'est parce qu'ils sont des dangers lourds, ou de côté de Chaussoutral, ils sont longs, ou bien quoi. Nous tous, on sait ce qui c'est que la conduite. Hier, au niveau de Atikoumé, le nouveau rond-point là, moi j'allais vers Adidogomé, le bus là me suivait. Au rond-point là-bas, on s'est ralenti, c'est parce qu'il y avait d'autres qui passaient. Jusqu'à ce que je le vois, il est venu me serrer. J'étais avec un collègue du service, mais on a crié. On a crié. Franchement. Et ils n'ont qu'à faire comme aujourd'hui l'OTR fait. C'est qu'ils n'ont qu'à passer un concours pour choisir vraiment des chauffeurs dignes de leur nom pour conduire ces bus-là. Sinon, franchement, ceux qui conduisent ces bus-là, franchement, ils ne connaissent rien.
D'accord.
Vous me permettez, pas et tous.
D'accord.
Mais il y a certains, vraiment, ça ne va pas.
Ok.
Pour les POMAF, comme ils font des routes, je pense qu'ils ont pris les routes comme c'est pour eux. Comme c'est pour eux. Sur la route de Covier là, si vous voyez comment, même la route n'est pas bonne, mais si vous voyez comment quand il est derrière toi, comment il fonce, si tu n'es pas courageux, tu risques de rentrer dans la brousse. Pour terminer, pour la route de le trou de l'Ebacito, fin goudron là. En réalité, je ne sais pas si c'est la mairie, si c'est qui là. L'autre fois, il y a un véhicule, il est rentré en même temps là-bas et c'est fini. Son moteur est coupé. Nous, on a passé, je ne sais pas, il s'agit de quoi. Franchement, c'est ce trou-là, alors que ça ne vaut même pas un camion pour l'emblayer là-bas et fermer ce trou-là. Je ne sais pas où juste il y a quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Patrice.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Bon. Merci pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 ou 315. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, et c'est vous?
Oui, ça va aussi. Votre nom, c'est... Ah, c'est Ali.
Mais vous savez, si on nous explique des concepts, on devait comprendre. Et ce qu'on vient de nous expliquer doit tourner autour des citoyens. Mais ce que nous vivons au Togo, ça tourne d'une seule personne. Et les citoyens sont oubliés. Et le risque est que... le processus mis en place actuellement est que ça profite seulement à un seul receleur. Retenez bien le mot. Et il initie le faux. Parce que les députés passés ont fait du faux, les députés présents font l'usage de tout faux, et les gens s'affichent comme si c'était derrière. L'exemple que un journaliste d'assister là-bas dire comme si on ne peut pas revenir sur Kassem République. Non, ce qui se fait actuellement ne se fait nulle part. Et c'est l'usage du faux qu'on nous impose. Et aucun député n'a été choisi pour nous imposer Kassem République. Et ceci en complicité avec le procureur de la République, la Cour constitutionnelle et toutes les institutions qui représentent le citoyen qui se taisent. Ça, c'est délit d'initié. C'est le délit des initiés. C'est l'université qui se prononce actuellement que sauve la peau parce qu'ils savent que c'est faux. Maintenant, ceux qui savent que c'est faux, mais continuent pas à nous imposer ça, se mettent toujours en position de l'assistance. De non-assistance de personnes en danger. La population togolaise est en danger, mais eux, ils ne se soucient pas de ça. Ils veulent toujours protéger seulement celui à qui profite le crime, qui est le président Fonia Soubé, qui arrose l'impunité dans le pays et qui terrorise la population togolaise.
D'accord. Ok, merci beaucoup. Et 22, 23, 314. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame Messi.
On est encore ici. On est livré à ça, on n'a rien à faire, il n'y a pas de travail pour 90 personnes, 90% de la population, puisque les gens cumulent, hein, les gens cumulent. Bon, voilà, voilà les universitaires patriotes atterrissent enfin, voilà. Vous atterrissez enfin, vous avez laissé faire quand même, mais bon. On a tout essayé, on a tout fait, hein, les accords, combien, 45, 35 et puis voilà, on a une constitution que les gens s'appliquent à volonté, et les universitaires sont formés pour défendre la République en danger, se taire, jusqu'à ce qu'on en arrive là où on a tout chamboulé, on a changé carrément, on a, comment on dit ça, on a monarchisé, mais bon, moi je sais que c'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce que je vais demander à notre universitaire, qu'est-ce que la C92 ou la constitution en général du Togo qui a profité aux gouvernants durant 61 ans là, qu'est-ce qu'elle leur a fait que subitement ils veulent la changer, ils veulent la cramer carrément, alors qu'ils n'ont rien respecté dedans, hein? Il n'y a aucun article qui a été respecté dans la constitution du Togo. Et pourquoi elle, maintenant, et qu'est-ce que la constitution là leur a fait?
D'accord.
Qu'est-ce que ça leur a fait? Moi, je sais que il y a que il faut plonger dans la juridiction pour mettre fin à ça. Dans la juridiction que maintenant, parce qu'on a tout fait, sauf la guerre.
D'accord. Merci beaucoup, madame, ici, pour votre question. 22-21-33-114-91-36-315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ah, papa Sibiti.
Pascal.
Oui, papa Sibiti.
Vous avez pris la phrase, vous avez remplacé mon directeur. Bon, que Dieu vous bénisse.
Moi, amen.
Ce qui compte, le jeu est déjà joué. Cinquième République, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République, je dis, il a 108 députés. Maintenant, c'est lui seul qui gouverne. Il n'y a plus d'opposition. Il n'a qu'à tout faire pour que tout le monde soit satisfait. Tout le monde mange à sa faim. Trois fois, les étudiants qui sortent, j'ai dit que l'opposition du président de la République, c'est la faim, le chômage. S'il fait ça, les fonctionnaires, les journalistes, les retraités, il n'a qu'à s'occuper de nous. On sait que c'est difficile à gérer. C'est tout. Les inondations, s'en occuper. Est-ce qu'il écoute ses conseillers lui-même? Ils écoutent ce que le peuple dit et le peuple n'a qu'à écouter le peuple et agir pour qu'on la produise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. 22-21-314. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, Richard. Depuis Copenhague, bonjour.
Bonjour, Ambroise. Bonjour, Tadam.
Bonjour.
Mon frère René.
Bonjour.
Merci, c'est Richard depuis Copenhague.
Oui, oui, allez-y.
Mais j'aimerais plaider pour la route. Surtout à l'entrée de Passini jusqu'à Tichau. S'il vous plaît. Bientôt la fête des Ivalas. Le groupe porteur, tous les parents. Je demande aux décideurs, faites quelque chose dans toutes les grandes villes au Togo actuellement, on a dévoué la route. Le groupe porteur, chaque jour que tu fais, sortir d'un parent. S'il vous plaît, c'est une grande ville. Mon deuxième point, c'est par rapport au professeur. Oui, c'est très beau tout ce qu'il dit. Dites-moi, si vraiment on doit assurer la démocratie, est-ce que nous, l'éducation que nous avons, la situation que nous avons, on pourrait vivre au Togo? Vous voyez, le problème du Togo actuellement, ce sont eux. Mais les gars éduqués là, sur la terre, moi, Ayadebo, un chef divin sera comment diriger sa population. Nous, dans notre famille, moi, parents, pères, je serai comment diriger. La plupart, vous aurez écouté beaucoup de personnes qui souhaitent qu'ils viennent dans la nation, ils ne sont même pas courtois. Vous voyez, l'autorité de le Dieu d'un pays. Commencez par éduquer cette population que nos autorités ont les droits du respect.
Alors, Richard.
Commencez par là. Oui.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Richard. Je pense que vous avez été largement écouté. 22-21-33-114-91-36-315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est M. Colani depuis Agoué.
Ah, M. Colani depuis Agoué. M. Colani, allez-y.
Oui, je salue le plateau, je salue notre invité universitaire. Je les ai suivis, lui et l'autre professeur sur Radio Avoleté. J'ai suivi ce matin sur Nana FM, son collègue, et je viens de le suivre aussi. Heureusement qu'ils ont pris nos préoccupations. Quand je dis nous qui avons demandé l'abstention aux Togolais de ne pas les voter, la libération des prisonniers politiques, une amnistie et puis une assise. Mais je les supplie, parce que quand on parle d'universitaires, ce n'est pas des gens plus intelligents. On a vu des universitaires qui ont embourbé le peuple togolais avec la maladie de Covid. Nous avons vu des universitaires qui sont sortis pour soutenir une constitution qu'on ne comprend pas. Donc quand on appelle universitaire, surtout en Afrique, c'est les balais locaux, c'est les colons, c'est eux qui piétinent même le peuple. C'est pourquoi, des fois, l'armée est obligée de prendre ses responsabilités. Donc ceci dit, dans leur développement, je préfère, c'est au niveau de la CIS que tout ce qu'ils développent, là, on le mettra. Sinon, quand la manière dont ils développent, pour les esprits faibles, ils penseront qu'ils sont des opposants contre le pouvoir. Non. Aujourd'hui, l'heure de la lumière, ce n'est plus question de l'opposition ou du pouvoir, c'est question du Togo. C'est l'intérêt général. Vous avez dit ça, vos journalistes sur le plateau ont dit quelque chose qui est très intéressant. Le citoyen. Si c'est le citoyen, cela veut dire forêt citoyen. Toute population est citoyen. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc cette assise, c'est une négociation. Ceux qui nous dirigent pensent qu'ils font mieux. Ceux qui s'opposent pensent qu'ils sont meilleurs. Mais aujourd'hui, on a compris leurs limites. Mais le peuple se cherche. Mais en tant qu'universitaire, des gens intelligents, je pense qu'ils se démarquent à ne pas développer tout ce qu'ils développent là. Non. Le Togo a besoin d'une assise. C'est au niveau de l'assise qu'on mettra tout ce qu'ils sont en train de développer. Sinon, on aura encore des divisions. La preuve est qu'au niveau des sociétés civiles, ils sont divisés. Les partis politiques entre eux, opposants divisés. Et maintenant, l'université est divisée. Or, le peuple a besoin d'unicité. Je m'arrête ici.
D'accord.
Et que la présidence va pour ce pays.
Merci beaucoup, monsieur Colani, pour votre intervention. Je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission. Après monsieur Colani, c'est un autre auditeur, 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, comment vous allez?
Oui, ça va, Basile. Comment vous allez?
Togolais.
D'accord.
Allez, bon, salut, monsieur le professeur Aoko. Bon, moi, je lui dis qu'il ne faut pas qu'il se dévoue pour quelques journalistes en studio. Parce que quand quelqu'un ne dort pas, mais il dit qu'il dort, on ne peut pas le réveiller. Le journaliste même, j'ai oublié votre nom, c'est quoi?
Allez-y, Basile.
Non, est-ce que je peux faire un droit de réponse?
Non, mais Basile, puisque notre temps est déjà avancé, notre temps est déjà avancé, je pense
que... Je veux dire que ma carrière, l'autre fois, moi je préfère ne pas avoir été à l'école que lui qui a été à l'école qui soutient l'insoutenable avec tout son colosse là. Il faut qu'il fasse avant de manger. Moi, je ne peux pas.
Allô, Basile. Voilà. Mais merci beaucoup, Basile. Je pense que Basile n'a pas aussi grand chose à nous dire concernant le sujet débattu ici au Club de la Presse. Et donc, Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Professeur, nous revenons en plateau. Vous avez écouté les uns les autres se prononcer hein, sur notre sujet débattu ici au Club de la Presse. Il y a d'abord Ali qui parlait même d'ailleurs de la gouvernance aujourd'hui, et pour lui, c'est que le citoyen est oublié.
Tout à fait. Oui, non, je disais que, en fait, c'est cela est le fait même de la nature du type de pays que nous avons hérité de la colonisation. C'est-à-dire que ceux qui sont venus créer nos États n'avaient pas eu une préoccupation de créer des États. Ils étaient venus créer des comptoirs pour pouvoir évacuer les produits de chez eux. Nous nous sommes battus pour avoir nos indépendances. Nous avons hérité de ce système-là. Et ce ne sont pas des États. Parce que quand ce système-là fonctionne essentiellement sur ce qu'on appelle l'administration publique,
c'est qu'il y a un problème. Ça ne doit pas fonctionner sur l'administration publique, ça doit fonctionner sur le citoyen et ses préoccupations. Dans les États d'où ils sont venus pour nous coloniser, c'est le citoyen d'abord qui a la base et c'est lui qui est à la chose. L'intervention de M. Colani m'a beaucoup aimé.
Vous avez aimé?
J'ai aimé. Parce que le vrai problème, c'est que quand vous êtes parfois à vous regarder, vous dites, mais voilà, des gens qui s'entendent sur tout, mais qui se plaignent de tout. C'est ce que nous avons constaté. Donc, si on prend les problèmes que nous avons ressassés ici, vous allez voir que nous avons des solutions, nous avons plein de solutions là-dessus. Et ce n'est pas nous en tant qu'universitaires, mais en tant que citoyens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut construire un contrat citoyen sur cette base-là, en se disant, si nous sommes tous d'accord sur ces éléments-là, décidons de ce que nous allons faire. Ayons un plan d'action. Disons ce que nous allons faire pour que ça arrive. À partir de ce moment, nous qui avons émis l'idée, nous ne sommes pas un groupe formalisé sous forme d'association, sous forme de groupe d'intérêt, etc. Non, nous avons juste émis fait des suggestions en disant, entendons-nous sur le minimum, construisons-les ensemble, disons ce que nous allons faire pour y arriver. À partir de ce moment, moi je suis sûr que, comme il le dit, nous arriverons à ces états-là. Parce que nous ne pouvons pas décider de vivre ensemble sans faire des états qui nous rassemblent et qui nous permettent de nous prononcer sur notre avenir commun. Parce qu'on peut retarder l'échéance, mais il faut à un moment donné qu'on arrive à ça.
Et je crois que M. Colani propose quand même une assise. Hein.
Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je dis que le but ultime, c'est que nous puissions un jour nous entendre pour dire mais quel type de société nous voulons avoir et comment est-ce que nous voulons que le citoyen joue son rôle pleinement, son rôle dans ce truc, et comment nous allons le faire ensemble pour que nous arrivions à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contrat. Et pour faire un contrat, on ne le fait pas et on le dépose sur la page publique en disant « venez signer ». Non, un contrat, c'est un consensus. Dans les pays qui fonctionnent bien, c'est qu'on a une base consensuelle sur lequel personne ne tergiverse. Aujourd'hui, on se plaint en France que la droite va prendre le pouvoir, que la gauche va perdre le pouvoir, que le centre ne va pas faire ceci. Tous ces débats-là, je vous dis que c'est du pipeau. Le vrai problème, c'est que la France sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut dans le monde. Elle ira de l'avance, quel que soit celui qui va la diriger. Et c'est ça le consensus. On sait où se trouvent nos intérêts, on sait comment on va y arriver et on sait comment s'y prendre. Le problème chez nous, c'est que nous ne nous asseyons pas pour en discuter, pour voir comment nous allons faire pour qu'un minimum d'entente devienne pour nous le socle sur lequel nous voulons fonctionner.
D'accord. Il y a madame ici qui posait la question, je ne sais pas si vous êtes habilité à répondre à cette question, qu'est-ce que le pouvoir en place reproche concrètement à la Constitution alors de la 4e République?
Je n'ai aucune idée. Parce que moi, ce que je retiens, c'est que la 4e République avait déjà permis de prendre des engagements. Et à partir de ce moment, disons-nous que ces engagements, une fois que vous vous engagez, respectez cet engagement, ça relève de la culture et de l'éducation.
Voilà. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Michel?
Non, Pascal, tu sais, tu invites des gens responsables qui quittent, qui font des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour venir animer l'émission avec toi. Et il va falloir que vous preniez des dispositions. Parce qu'il y a des auditeurs qui ont appelé dans la courtagie, ils sont exprimés, mais il ne faut pas que permettre des alignés, des malades. Le dernier auditeur, par exemple, c'est un malade qui s'est trompé de chemin. Il faut éviter que ces gens-là vraiment viennent gâter votre émission. Moi, c'est un conseil. Hein.
D'accord, merci beaucoup, Michel. Oui, Abras, on est à la fin.
Pour moi, je voudrais tout simplement exhorter ceux qui nous gouvernent que nous sommes dans une république. Le minimum qu'ils puissent faire pour que le citoyen soit à l'aise, c'est d'écouter ce citoyen-là. Il faut l'écouter. Qu'est-ce que le citoyen veut? On ne gouverne pas pour soi-même, mais on gouverne parce que certains nous ont portés pour nous gouverner.
D'accord.
Et si on ne peut pas écouter, donc on n'est plus gouvernant.
Ok. Il faut
laisser les choses.
Merci beaucoup, Ambroise. 10 secondes, professeur, pour clôturer cette émission.
On remercie les collègues qui ont animé avec vos collègues qui ont animé avec nous l'émission et dire qu'il y a de l'espérance. Hein. Nous ne devons pas désespérer puisque cette constitution est venue montrer que quelles que soient les fuites de responsabilité auxquelles nous faisons face, on est rattrapé toujours par l'histoire.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Aouko Kokou du mouvement Contrat Citoyen. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Ambroise, merci. Michel, merci. Merci à tous qui nous avez suivis. Demain, vendredi, nous serons toujours avec vous. Mais cette fois-ci, nous aurons une émission délocalisée. La localité, vous le connaîtrez sûrement, ou vous la connaîtrez, pardon, demain. Et nous en parlerons bien sûr demain. Alors, merci à Michel Tobega qui a assuré la mise en onde. Merci à Jérôme Akuta qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve bien sûr demain, vendredi, pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.